Salut Thierry.
Salut.
Fait que on y va, c'est l'épisode 138, vendredi le 6 octobre 2023. Cette semaine, un épisode, on retourne sur le terrain, Thierry. On retourne sur le terrain, on vient de Saint-Hyacinthe. Puis notre famille a eu une marque sur la ville de Saint-Hyacinthe. Là, cette semaine, c'est ça le sujet.
Ben oui.
On en parle. On parle de cette marque-là. On fait un retour. Fait que c'est pour ça. Où est-ce qu'on est, Thierry?
Au parc Bernard-Avard, anciennement le parc du Bourg. Ça a été changé de nom en 2021 à peu près.
Oui, la pancarte est arrivée en 2022. Ouais.
La pancarte est arrivée en 2022. S'il y a eu une pancarte, il y avait une faute, il y avait écrit « Avard » avec un H. Mais ça, par contre, ça, on peut apprendre. Parce que je ne sais pas si on s'en va tout de suite dans les détails.
Ben oui.
C'est qu'on peut apprendre ici par l'arbre généalogique que Julien a fait. Ça ici, c'est... Julien avait fait ça ici. C'est un arbre généalogique. Il avait fait ça, en quatrième année. Un projet qui est très, encore aujourd'hui très fier de son arbre généalogique qu'il a fait. Puis on peut voir dans l'arbre généalogique que nos ancêtres s'appelaient Avard avec un H.
Gabriel Avard avec un H, c'est notre ancêtre.
Puis en 1690, le H a disparu.
Ouais. C'est un bel arbre généalogique, puis c'est ça.
Je trouve ça intéressant de voir que si c'était resté avec le H, dans le fond, c'est vrai qu'on l'a perdu il y a quand même 400 ans, là, mais... Puis Bernard Avard, c'est notre pépère, le père de notre père... Et puis, géographiquement, dans la ville, on est proche de l'autoroute 20.
On l'entend, d'ailleurs, si vous portez attention.
Il y a l'usine de biscuits pour chiens, Biobiscuits, par là-bas. Il y a le salon de quilles. Il y a aussi le concessionnaire Volkswagen, pour lequel j'ai travaillé pendant une dizaine de mois à faire du lavage automobile puis à raccompagner les clients. Je suis un peu familier avec ici parce que j'allais travailler en bicycle. Moi, j'étais le genre de gars, je travaillais au concessionnaire en bicycle. J'étais pas super bien vu par la gang, mais ça me permettait. Je voyais souvent ce parc-là. Moi, j'avais envie, là, on décroche la caméra de l'arbre, on se promène, là, puis on en profite du parc. On a bien des choses à dire sur pourquoi est-ce que notre pépère, Bernard Avard, a son parc.
À Saint-Hyacinthe. Mais Thierry, je te laisse commencer, effectivement, parce que moi, ce que j'ai à dire sur notre pépère, moi, te laisser, c'est le côté technique. Moi, c'est plus mon côté relationnel à l'homme, mes souvenirs. Fait que toi, je vais te laisser aborder le côté plus la marque qu'il a laissée sur la ville, puis moi, je vais te dire la marque qu'il a laissée sur moi-même.
Bien, c'est que j'ai fouillé dans les archives du journal local, le Courrier, le Clairon, ces journaux-là qui nous permettent quand même... découvrir un côté de notre grand-père, notre pépère, que je ne connaissais pas nécessairement beaucoup, c'est-à-dire le conseiller municipal, que je savais qu'il avait été échevin, puis on entendait souvent parler, mais on était trop petits quand il a perdu ses élections de 96 pour vraiment avoir conscience de qu'est-ce que ça voulait dire. Puis dans le fond, c'est pour ça qu'il y a eu un parc, pas parce qu'il était notre grand-père. Là, la plupart des grands-pères... peut-être mériterait des parcs, on ne sait pas, mais c'est parce qu'il a occupé un rôle public dans le quartier, ce quartier-ci en particulier, c'était à l'époque le district Vanier. Je ne sais pas, aujourd'hui, sûrement qu'ils ont redessiné un peu ça, puis...
C'est pas possible.
Aujourd'hui, ce serait Saint-Sacrement, Saint-Thomas-d'Aquin, ça te donne une idée, c'était quand même grand, là. Puis, il a été élu en 1983, c'était une élection partielle. Il a défait Robert Rivard, son unique adversaire, pour succéder au démissionnaire Roger Rivard. Il y avait beaucoup de Rivard. C'est pas parce que tu t'appelais Rivard que tu allais gagner, mais il fallait quand même que ça rime en or. Il a été réélu aux élections générales de 1984, ensuite en 1988 et en 1992. C'est ça. Il avait un franc-parler, il est très impliqué.
Ben, très, très charismatique, très, très proche des gens.
Au début de son mandat, il était le jeune. Il avait à peu près 44 ans. Là. Avant ça, il avait été très impliqué dans les scouts. C'est pour ça qu'il a failli avoir la salle, la cathédrale à son nom.
On peut s'asseoir un petit peu, peut-être.
Ouais, je pense que ça va être...
Attends, je vais me mettre... Comment tu vas échanger de bras, là, ouais.
Qu'est-ce que je vais dire? Ben, c'est ça. Fait qu'en, en 1996, il avait longuement hésité. Là, c'est pas quelque chose que je me souviens, là. C'est juste parce que je l'ai lu dans l'article du journal. Il avait longuement hésité avant de se représenter en 1996, de solliciter un nouveau mandat, comme ils disent dans les journaux. Mais après avoir vaincu son cancer du larynx, ça, je pense qu'on s'en souviendra. Là. Moi, j'étais à Walt Disney World quand il avait recommencé à parler. Et puis, là, il se sentait d'attaque. Il a dit « Je me représente ». Mais finalement, il a perdu 777 voix contre 669 face à Jean-Claude Patnaud.
Je me souviens que ça avait laissé un goût amer, ça. Je pense que ça l'avait... Disons, on était petits, puis tout ça, on comprenait pas tout ce qui se passait, mais ça, je me souviens que ça a toujours été un peu amer, ça, cette défaite-là.
Ouais. Puis on le décrit comme quelqu'un qui était très sensible aux richesses patrimoniales, il était un bon vivant. Puis bon, j'ai malheureusement, je suis pas nécessairement au fait de tout les réalisations concrètes ces faits d'armes de politiciens puis tout ça. C'était dur dans les articles de comprendre précisément c'est quand même étrange que dans notre famille, il y a eu autant de conseillers municipaux puis qu'on je pourrais pas me faire ça. Moi, je pense que je serais pas capable de...
Puis là, c'est un aparté, ça concerne pas ça, mais il y a des défis puis des une loupe sur chaque personne qui est complètement différente de l'époque, là. Puis avec les médias sociaux, là, c'est... Je pense que c'est... je sais pas si c'est plus difficile, là. J'aurais tendance à le dire, mais c'est clairement des défis, là, très grands pour souvent des tâches peu valorisées, peu rémunérées. Et très importante, là, c'est le palier de gouvernement le plus proche du citoyen, là. C'est qu'est-ce qui se construit dans ta ville, c'est tes déchets, c'est ton service d'eau, c'est le déneigement des rues, c'est comment que la ville est pensée, et tout ça, c'est beaucoup plus proche de nous que tous les autres paliers de gouvernement, puis souvent c'est celui où est-ce qu'on... les taux de participation sont les moins élevés, puis...
Non, c'est ça. Mais c'est un fait qu'à l'époque, c'est quand même différent, mais il y avait beaucoup de comptes rendus. Comme par exemple, la première fois qu'il a siégé en 1983 après avoir gagné l'élection partielle, il s'était fait remettre à sa place par le conseiller Cordeau, qui, à ce qui paraît, Pépère, durant la campagne, avait un peu dit il faut de la jeunesse, il faut faire des choses. Le conseiller Cordeau ne l'avait pas vraiment pris parce que
il
était le doyen de l'Assemblée ou quelque chose dans l'air. Puis aussi, quand il a commencé à siéger, il y avait Pierre Sauli sur le conseil, qui est notre grand-père du côté maternel. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, il y en a du conseiller municipal dans notre famille. On devrait avoir ça dans le sang, pourtant.
On pourrait même rajouter que la conjointe, pendant plusieurs années, de notre grand-père, a aussi siégé comme conseiller municipal pendant plusieurs années à Saint-Hyacinthe, avant de se présenter comme candidate, comme mairesse.
Ouais.
Elle a été défaite. Puis elle avait été la première femme élue au conseil municipal, la conjointe de notre grand-père, Huguette Corbeil. Donc, vraiment, dans notre famille, c'est ça, on baigne de politique municipale, là, assurément.
Oui, oui, oui. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même de découvrir ça. Aussi le fait que j'en avais pas vraiment de souvenirs. Il faut dire qu'on commence à avoir des souvenirs vers l'âge de 3-4 ans. Puis j'ai pas le souvenir de Pépère dans ses dossiers de conseiller municipal.
Ben, je me souviens clairement de Huguette.
Ouais, ça, Huguette, oui.
Huguette nous amenait à l'hôtel de ville, nous amenait pour un paquet d'affaires, puis elle avait été très impliquée dans les fêtes du 250e de Saint-Hyacinthe. Puis ce qui est un peu drôle, parce que cette année, Saint-Hyacinthe fête son 275e. Ça nous rajeunit pas, comme on dit. Là. On a vécu le 250e, avec le T-shirt, puis tout ça. Là.
Ouais.
Je sais pas s'il y a eu des T-shirts, le 275e.
Je sais même pas c'est quoi les activités qu'il y a eu. On a mis des bannières un peu partout en ville,
Mais oui, avec Huguette, là, je me souviens très bien, on est souvent allé dans la salle du conseil municipal, voir son bureau, voir ses dossiers qu'elle avait, puis tout ça. Là, puis quand on se promenait dans le quartier, là, c'est souvent parler avec tout le monde là, pour des dossiers, des choses ouais. Et tout ça.
Ben, j'imagine que ça aurait été la même chose si on avait été plus vieux quand Pépère était dans la politique municipale.
Ben, ici, il y a bien des cigarettes par terre.
Ben ouais, c'est bien effrayant ça. Il va falloir écrire au conseil municipal de Vanier de l'actuel quartier. On ne sait plus comment ça s'appelle.
Ben, je pense que c'est Saint-Sacrement encore.
OK. Ben, moi ce que j'avais à dire, Thierry, c'était plus sur mon ressenti.
OK, non, c'est
bon. Avec Pepper, parce que oui, ça marque sur la ville de Saint-Hyacinthe, son passage comme conseiller municipal et tout ça, qui a été important. Mais ultimement, notre Pepper, avant d'être un conseiller municipal puis un homme politique, ben, c'était notre Pepper. Pour faire une brève présentation, notre Pepper, une des choses spéciales, c'est qu'il est né le 14 février. Donc, souvent, pour moi, à chaque Saint-Valentin, ma première pensée, c'est pas pour les amours, c'est pour mon Pepper. Mm. Il avait associé la Saint-Valentin. Souvent, il disait, c'est moi qui reçois des cadeaux et tout ça. Et donc, j'ai de la misère à dissocier la Saint-Valentin de mon Pepper. Je sais pas si ça te fait ça, toi aussi.
Ouais.
Ouais, un peu.
Ben, sur le calendrier, c'est sa fête à lui.
Effectivement, c'est pas un truc de Saint-Valentin. Une autre chose que je peux dire, Thierry, c'est je pense qu'il aurait bien aimé ça. Lui, il aimait beaucoup la pêche. Il aurait donc aimé ça qu'on aime la pêche. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours trouvé ça plate à mourir. Mais il nous avait tout acheté, nos coffres de pêche, nos cannes à pêche, puis tout ça. Puis maudit que c'était plate. Mais tu sais, j'ai des beaux souvenirs pareil par rapport à ça, là, mais il a pas fait de nous des pêcheurs.
Non, mais en tout cas. J'ai appris à gratter du fer forgé, puis à. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai fait quand même des petits travaux autour de. On a travaillé au jardin caché, le bed and breakfast.
Ouais. Je me souviens que notre pépère était très intéressé. Je sais pas si tu te souviens quand on avait fait le mouvement jaune là, du Québec, puis tout ça, là, qu'on avait, on avait réservé un autre parti politique, on avait fait une vidéo. Pis je me souviens là, c'est sûr qu'il y a la fibre politique, puis tout ça, là, mais il nous posait des questions. Il était intéressé de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Ouais. Je chantais qu'il voulait savoir, puis il était donc fier de nos vidéos, puis tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est apparu dans l'ignore du froid, Ciboulette qui fait chaud. On avait voulu lui faire une place là, dans nos petits films. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire sur mon ressenti de mon pépère que j'aimais beaucoup.
Ouais, mais c'est ça. C'est quand même une chance quand même qu'il ait joué un rôle assez important dans la ville pour avoir son parc. C'est qu'on peut venir ici. Je sais pas qui est-ce qui vient précisément. Mais...
En tout cas, à chaque fois qu'on est venu, jamais personne. Il y avait juste nous autres. Mais...
Ouais. Parce que c'est un beau...
Il y a du monde qui vient de fumer, en tout cas, patin.
Oui, sûrement du monde qui travaille dans les usines, puis les fabriques, puis les manufactures. Ben, c'est bon. Fait que là, on va poursuivre la vidéo. On a un autre lieu à visiter, un autre lieu qu'un de nos aïeuls a laissé sa marque dans la ville.
Fait que venez-vous-en.
Like the water under the bridge, sweetheart, but the road...
On est présentement dans le quartier Saint-Joseph, ou comme je l'appelais quand j'étais un enfant, je l'appelais le quartier Saint-Joseph. Remplace, je sais pas pourquoi c'est Saint-Joseph, c'est le seul qui fonctionne. Si tu remplaces n'importe quel autre nom en Saint avec Saint...
Saint-Sacrement marche pas, tout non. Ça. On peut aller sur l'autre trottoir, peut-être, de l'autre côté. Moi, quand j'étais petit, sais-tu comment j'appelais les trottoirs?
Des crottoirs?
Ouais, des crottoirs.
Ouais. Fait que là, on va essayer de voir la pancarte, pas si on se retourne de même, là. Pourquoi est-ce qu'on est ici, précisément? Tu vois-tu?
Ouais, on voit la pancarte derrière nous. Donc, oui, nous sommes ici sur la rue Sauli, parce que peu d'entre vous le savent. On va filmer de proche. Ça...
Ouais.
Pas évident à filmer plus proche. Hein? Voilà. Parce que c'est ça, c'est évidemment, on porte le nom de notre père Avare, mais si on avait eu un nom composé, on se serait appelé Sauli Avare ou Avare Sauli. Parce que du côté.
c'est comme quand t'appuies sur... Tu touches à l'écran, c'est pour ça.
Oui. Du côté... donc notre mère était une Soli, et il y a aussi du côté Soli, une rue, donc qui a été nommée en l'honneur de Émile Soli, qui était notre
arrière-grand-passé, le grand-père de notre grand-père, c'est ça, l'arrière-grand-père de notre mère. Puis, bon, j'ai aussi, comme pour tantôt, on a l'arbre généalogique. Là. Tu peux tenir le micro un certain un petit instant.
Parce que Émile Soli se situe ici, dans le arbre généalogique. Puis on fait le tracé, on arrive jusqu'à Julien Avard, qui est notre frère, que c'est son travail de...
Son travail de quatrième année.
Tu étais sur le bon côté, hein?
Oui.
Ah, OK, c'est que... OK,
il y a eu 100% de travail, là, parce qu'il a vraiment été loin dans les archives. Là. On peut savoir, on peut découvrir que Soli, ça vient de l'Espagne. Ce serait des Juifs d'Espagne qui ont fui les persécutions de la fameuse Inquisition espagnole.
Et comme on peut voir, ben Émile Soli... Donc, son impact sur la ville de Saint-Hyacinthe, peut-être que tu auras plus de détails, là, mais il était la raison pourquoi il y a des pancartes, on peut le voir, c'est qu'il était conseiller municipal et libraire. Donc, la librairie Soli qui a existé pendant près de 100 ans
à Saint-Hyacinthe. C'est ça. Pendant longtemps, il y a eu la librairie Soli, la librairie Richer, qui a duré longtemps aussi, qui a eu quand même une bonne histoire, mais... Le commerce de la librairie, c'est pas ça. C'est maintenant aujourd'hui la librairie Soli n'existe plus. Un certain temps, il restait une enseigne qui appartenait pas à la famille, qui était au centre commercial, mais avec l'arrivée de Bureau Pro Citation, là, ça, ils ont fermé après ça. Mais c'est ça. Fait qu'Émile Soli, on peut en parler un peu du quartier Saint-Joseph qu'on est où ce qu'on est. C'était le quartier de la prison à une autre époque.
Avant, c'était fermé, avant les années 90, il me semble.
Et puis, François, on peut marcher un peu sur la rue pour pas rester dans le coin de rue comme ça. Là.
C'est vrai qu'il va, ça va être moins passant par là.
Ouais. En 1976, les villes de La Providence et de Saint-Joseph ont été annexées à la ville de Saint-Hyacinthe. Il avait essayé de faire ça en 1896, c'est-à-dire au tout début de l'arrivée d'Émile Soli à Saint-Hyacinthe. Ça n'avait pas fonctionné. Depuis ce temps-là, ben Saint-Joseph, c'est un quartier de Saint-Hyacinthe. Donc là, on va parler pour de vrai d'Émile Soli, qui est né à Iberville. Il n'est pas venu à Saint-Hyacinthe. En 1903, il était représentant de commerce pour la librairie Beauchemin, puis de Montréal. Il est décidé de s'établir à son compte. Il a été à Valleyfield aussi. Ça a l'air qu'il y avait une librairie Soli à Valleyfield. Ah. Fait qu'on aurait peut-être pu être Valleyfield-Douel. Puis il a quitté Valleyfield avec une nombreuse famille. C'est pour ça, Soli, il y a bien du monde qui pourrait s'en réclamer parce que il avait, je pense, 14 enfants. Il a décidé de venir s'établir à Saint-Hyacinthe, puis ça a été un succès fulgurant, là, quand tu y penses. C'était un petit commerce au coin des rues Mondor et Cascade. Puis en 1905, il se porte acquéreur de la bâtisse de 1440 Cascade. C'est où la librairie a été pendant plusieurs décennies, mais je pense pas que c'est là qu'elle était quand nous autres, on était petits. Là, puis celle où c'est rendu une épicerie aujourd'hui. C'était un homme, Émile Soli, de tout ce que j'ai vu dans les articles que j'ai pu lire sur le courrier, les archives du courrier, c'était un homme dynamique, un homme très impliqué dans la communauté. Mascoutaine. Il a été conseiller municipal pendant 8 ans, de 1914 à 1922. Il a fait partie de la commission scolaire à compter de 1912. Et puis, avant d'en devenir le commissaire, le président, de 1930 jusqu'à 1948, c'est-à-dire... un peu avant sa mort, sa santé l'a obligé à ce moment-là, il avait quasiment 80 ans, là, à prendre sa retraite. Il était marié à Alexandra Hamelin, famille de 14 enfants, dont Marcel, c'est ça, on en a parlé tantôt, c'est notre arrière-grand-père, que lui aussi était conseiller municipal, et puis c'est lui qui avait pris la relève pour la librairie.
Qui est mort plus jeune. Puis c'est pour ça que notre grand-père a pris la relève de la librairie assez jeune. Là. Il avait 19 ans, c'est tout ça? Je ne me souviens plus exactement, ouais, mais il était très jeune,
très jeune
quand, quand il a pris les rênes.
À cause du décès très subi de son père. Puis, c'est un conseil. J'ai aussi découvert, en fouillant dans les archives de la famille, son testament.
Oh! Tu l'as légué quelque chose?
Donc là, ici, juste pour qu'on puisse voir, ça, c'est le testament de Émile Sauli. Et puis, c'est à la page... à la page, je pense, 5, il est écrit que si jamais il y a une rue qui est nommée en son nom, que cette rue-là appartient à ses descendants. On fait partie de ces descendants-là. Donc, je pense qu'on pourrait essayer de se porter, de faire valoir nos droits auprès de la ville. Non, c'est pas resté une farce. C'est une clause qui n'aurait aucun...
Bon, puis on serait pogné pour la déneiger, l'entreprise.
Ouais,
finalement.
C'est pas
ça. C'est qu'on ferait ça. Fait que ça fait, je pense que ça fait le tour de notre épisode sur le terrain, notre épisode 138, en ce vendredi le 6 octobre 2023.
Ouais.
J'espère que vous avez apprécié.
Saint-Hyacinthe, nos racines mascoutaines, c'est une ville... je pense pas qu'on va avoir la rue du podcast, mais bon.
Fait que voilà, c'était notre épisode. On se revoit dans deux semaines. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous écouter. Donc...
Ouais.
C'est ça.